Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce soir monsieur Jean-Michel Guénassien. Déjà pour vous situer un petit peu le contexte, cette rencontre rentre dans le cadre des 60 ans de la collection Livres de Poche. Et pour l'occasion, nous avons un programme exceptionnel. Donc ce soir, c'est Jean-Michel Guénassien qui ouvre le bal. Et dans deux jours, nous recevrons Catherine Pancol, qui va venir avec son fameux zoo composé d'écureuils, de crocodiles et de tortues. Et enfin, Tatiana Dronet viendra le 18 avril. J'en profite également pour vous rappeler que nous avons mis en place un concours au rayon Livres de Poche qui vous permet de gagner un an de lecture dans cette collection. Donc je vous invite à le découvrir en rayon. Et aussi, alors c'est un concours qui est relayé également sur notre site internet. Alors, pour l'heure, donc, nous allons nous entretenir avec Jean-Michel Guénassien, dont nous avons vraiment adoré les deux premiers romans. Déjà, nous allons parler du Club des Incorrigibles Optimistes, avec sa jolie couverture tirée d'une photo de Henri Cartier-Bresson, qui ne décolle pas de notre table coup de cœur en livre de poche. C'est un livre qui a reçu le prix. Alors, généralement, c'est le moment un petit peu délicat où, enfin, on rappelle en tout cas tous les grands prix littéraires qu'ont pu recevoir un livre, et celui-ci en a eu beaucoup, en tout cas d'assez évocateur, puisqu'il y a non seulement le prix Goncourt des lycéens et le prix des lecteurs de notre temps. Alors c'est assez amusant d'avoir ce grand écart générationnel. Et il a également obtenu le prix des lecteurs du livre de poche, un livre qui est arrivé ex aequo avec La balade de Lilaka de Blandino Calais, un autre excellent livre. Et celui-ci, vous en avez vendu à peu près 350 000, donc un véritable succès de librairie. Et ma première question, c'est savoir, ce livre-là, vous l'avez écrit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est savoir ce que vous faisiez avant.
Alors avant, j'ai commencé dans une vie antérieure, il y a fort longtemps, par être avocat. Donc je suis resté avocat pendant 7 ans. Et arrivé à l'âge de 30 ans, j'ai enlevé ma robe définitivement pour écrire. J'ai fait don de ma personne à l'époque, c'était au cinéma français, pour devenir scénariste. Donc je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Peut-être que si j'avais su, je n'y serais peut-être pas allé. J'y suis allé et j'ai été scénariste essentiellement pour la télévision française pendant 25 ans. Donc j'ai abreuvé vos jeudis soirs pendant 25 ans de séries policières nombreuses et variées. Jusqu'au moment où j'en ai vraiment eu assez de fabriquer des séries. Et donc, j'avais envie de faire autre chose et je me suis lancé dans le club, dans l'écriture de ce roman. Voilà.
Mais avant, j'ai cru comprendre que vous avez déjà écrit un premier roman. C'est un faux premier roman, en fait.
C'est c'est un roman, le Pour 100 millions, qui va probablement reparaître au livre de poche un de ces jours, puisque je l'ai complètement réécrit. C'était un faux roman, en réalité. À l'époque, c'était pas un roman, c'était un scénario de long métrage. Et ce film s'est écroulé un mois avant le tournage, un peu moins, trois semaines. Et le producteur, ne pouvant même pas me payer ce qu'il me devait, m'a dit : écoute, je te rends tes droits, mais c'est vraiment un très très bon sujet, tu ferais bien d'écrire un roman avec. Et comme j'avais un trou dans mon emploi du temps, parce qu'on devait faire ce film et il ne se faisait pas, donc j'ai écrit ce roman qui a été édité, qui a eu le prix du roman policier en 1986, donc ça ne rajeunit pas. Et j'étais pas franchement enthousiaste, j'étais pas... Et en plus, il y a eu un événement qui m'a profondément traumatisé. C'est James Ellroy et le Dahlia Noir. Et je me suis dit, si je ne suis pas capable, comme je voyais mon petit roman minable à côté du Dahlia Noir, et je me dis, si je ne suis pas capable d'écrire un roman pareil, il vaut mieux que j'arrête le policier. Donc James Ellroy m'a arrêté dans mon élan romanesque. Parce que lui, c'était vraiment un roman, quoi. C'était vraiment quelque chose de stupéfiant. Le Dahlia Noir étant pour moi un des grands chefs-d'œuvre littéraires tout court. Et donc, j'ai attendu plus de 20 ans avant de recommencer.
Et d'ailleurs, ce livre, vous avez mis 6 ans pour l'écrire. Ouais. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a pris le plus de temps finalement ? Est-ce que c'est la documentation ? Est-ce que c'est le jeu de réécriture ?
D'abord, écrire, c'est extrêmement long. Enfin, moi, je suis lent. Ça prend beaucoup de temps, déjà, à construire, à se documenter. Puis, moi, je travaille énormément sur la fluidité du texte. Et j'enlève énormément, je coupe beaucoup. Donc, dans la première mouture que j'avais envoyée, puisque je l'envoyais par la poste, un éditeur, il faisait plus de 900 pages. À l'époque, donc c'était encore plus gros, et on l'a réduit à 750. Ce qui est long, c'est très long à écrire. Il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal en me disant qu'ils l'avaient lu en une nuit, alors que moi j'ai mis 6 ans. Je sais pas comment on peut dire ça en une journée. Il faut jamais dire ça à un auteur. Quoi, parce que c'est passe beaucoup de temps à écrire. Et ça se lit très vite. Enfin, faudrait prendre plus de temps pour le lire.
Oui, parce qu'en plus, c'est une lecture extrêmement fluide, dynamique. C'est vrai qu'on n'a pas envie de
non,
lâcher.
Non, mais c'est long. Même actuellement, où je n'ai fait plus qu'écrire, j'ai mis 2 ans et demi pour écrire Ernesto. Celui que j'écris actuellement me prendra bien 2 ans. À temps plein, quoi. Enfin, je fais que ça. Donc,
Là, vous l'avez commencé, le
troisième. Oui,
le troisième.
Suis largement... Je suis bien avancé, heureusement.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a toujours un lien entre...
Non, j'ai coupé...
Non, vous avez changé d'univers.
J'ai coupé le cordon avec les utopies du XXe siècle. Je suis passé à autre chose.
D'accord. Et même pas de personnages récurrents qu'on a pu retrouver dans ce
livre-là. Il est possible que j'en trouve un, mais comme les membres du club, aujourd'hui, ils ont 90 ans, quoi. C'est de la génération de 1910, donc... Joseph Kaplan, dans La vie rêvée d'un Stogé, on fête son 100e anniversaire, donc c'est un centenaire. Donc pour recroiser ces gens-là, ils sont quand même assez âgés. Il y aurait que Guerre, Michel Marini ou Camille, oui. Qui. Ils sont plus tout jeunes non plus. Donc.
Et sinon, comment vous est venue l'idée de ce club ? Est-ce que déjà il existe vraiment ? On le voit.
La première idée m'est venue il y a très longtemps. En lisant un livre d'un grand critique d'art qui s'appelle Alain Jaubert, qui est connu pour avoir fait une série télé qui s'appelait Palette.
De très bons livres aussi. Hein.
Et de très très bons livres. Et il avait fait un livre qui s'appelait Le commissariat aux archives, qui évoque Orwell, 1984. Mmh. Et il avait fait il y a que 2 livres sur ce thème-là en France, les photos truquées du temps du stalinisme. Donc on voyait... des photos la très célèbre photo de Lénine à Capri, donc il y a en 1912 ou 13, Lénine était malheureux, il était à Capri en exil, et autour de lui il y avait tous les futurs chefs de la révolution russe, donc il y avait Kameniev, Zinoviev, Trotsky et Staline, très loin au fond. Et au fur et à mesure qu'ils étaient tués ou fusillés, on voyait Staline qui se rapprochait. Et sur la dernière photo qui a été publiée, il y avait juste Lénine et Staline. Et tous les autres avaient complètement disparu. Et je m'étais dit à l'époque, ce qui serait intéressant, parce qu'un scénariste, c'est quelqu'un qui cherche toujours des sujets, qui a toujours des... pour proposer ça aux chaînes de télévision. Et je m'étais dit, ce qui serait intéressant, c'est de raconter l'histoire de celui qui truque les photos. Celui qui, si vous avez une photographie et que vous effacez quelqu'un, ça veut dire que vous avez un pouvoir sur cette personne qui est extraordinaire. C'est un sujet vraiment faustien, complètement. Et forcément, en plus, bien sûr, si vous effacez quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez. Ce que vous effacez, vous avez un... Et donc, j'avais toujours gardé cette idée en tête. que ça serait un bon sujet, mais je ne savais pas quoi en faire. Voilà, c'était... En tout cas, ce que je savais, c'est qu'aucune télévision française ne pourrait serait intéressée par ce type de sujet. Et donc, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête pendant très, très, très longtemps. Et ensuite, la deuxième idée, ça a été en 1992, la parution d'un livre d'une femme qui s'appelle Nadejda Mandelstam, qui est l'épouse d'un poète russe qui s'appelle Ossip Mandelstam. Ossip Mandelstam est un des plus grands poètes russes. Point. Donc il y a au XXe siècle, il y a quatre très très grands poètes dans la Russie d'avant-guerre en tout cas. Il y a Anna Akhmatova. Il y avait trois poètes. Il y avait Anna Akhmatova, Boris Pasternak et Ossip Mandelstam qui formaient un groupe qui s'appelait les Acméistes. C'était un groupe Acmé, c'est la beauté, donc c'était. Et à côté, il y avait d'autres poètes comme Marina Tsvetaeva, qui était elle exilée, beaucoup plus moderniste que les trois autres, et un autre qui s'appelait Isaac Babel, qui va mourir aussi. Et Ossip Mandelstam était d'une immensément célèbre pendant l'entre-deux-guerres. Admiré par toute l'élite française, tous les poètes français de Breton, Char, enfin, il venait en France, Gide était à ses pieds, enfin. Il a écrit un grand pamphlet contre Staline. Et Robert Little a écrit un livre qui s'appelle L'Hirondelle. Sur ce sujet-là. Et donc, il a écrit un pamphlet sur Staline en 1937. Chose à pas faire, bien sûr. Et ce pamphlet a circulé de main en main, et jusqu'à Staline, qui aimait beaucoup Mandelstam. Et on lui disait, on ne peut pas laisser ce pamphlet. Mais oui, enfin, c'est Mandelstam. Et finalement, la pression de la police, ils ont arrêté Mandelstam en début 39 et il a été envoyé au goulag où il est mort de froid quelques mois après. Et quand le NKVD, donc l'ancêtre du KGB, débarquait chez des terroristes, chez des opposants, il raflait tout. Il prenait tous les papiers, les dossiers, les cahiers, les notes, et il brûlait tout. C'était le principe. Le principe, c'était l'élimination. C'est-à-dire qu'il fallait détruire, non seulement il fallait tuer la personne, mais il fallait détruire tout ce qui la reliait et qui fait qu'elle existait. Donc ses papiers, ses lettres, ses archives, ses carnets, ses photos. Donc, aussi Mandelstam, on se retrouvait avec un... La dernière partie, on avait été publié toute l'œuvre de Mandelstam en France et dans le monde entier, sauf la dernière partie, donc là de 37 à les trois dernières années de sa vie. Et on pensait que ses poèmes avaient disparu. Et je crois que c'est donc en 80, j'ai pas la date, je crois que c'est en 92, que Nadejda Mandelstam a publié, quand Andropov a pris en 82, quand Andropov a pris le pouvoir, a été élu, donc elle a publié un livre et elle a publié tous les poèmes d'Ossip Mandelstam de cette période-là qu'elle avait appris par cœur. Et la dernière partie de l'œuvre d'Ossip Mandelstam nous est parvenue grâce à sa femme, Nadejda Mandelstam, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, de profondément émouvant de voir que l'œuvre d'un poète nous parvient uniquement par la vertu de la mémoire et de l'amour de sa femme. Bien sûr, ça rappelle les personnages de Fahrenheit 451, les hommes et les femmes livres qui luttent contre la tyrannie en apprenant des livres. C'est pour ça d'ailleurs que je fais écho à différents passages du livre. Sauf que Bradbury, quand il a écrit ce livre, évoquait uniquement la dictature nazie. Il ne connaissait pas du tout cette histoire-là. La question lui a été posée, Bradbury, je crois, est mort l'année dernière, et on lui a posé la question, il dit non, je connaissais. Alors, Anna Akhmatova elle-même avait appris des poèmes d'Isaac Babel et de Pasternak, et donc c'était plus de la science-fiction, c'était la réalité. Et je trouvais ça extrêmement émouvant, et donc l'autre idée, c'était de se dire... j'avais envie de raconter une histoire sur la transmission de la poésie de cette façon-là. C'est-à-dire sauver la poésie par la mémoire. Et quand on y réfléchit, c'est la seule chose finalement qui reste dans l'histoire, c'est les poètes, les peintres et les musiciens, les artistes. Donc la seule chose dont on soit sûr, c'est que dans un siècle, plus personne ne saura qui était Bill Gates ou Bernard Arnault. Ils auront complètement été... oubliés, et plus personne ne pensera à eux, et on pensera uniquement à des poètes qui aujourd'hui meurent de faim. Et donc, ça, de la même façon qu'on se souvient de Gérard de Nerval, ou de Jean, ou de Clément Marot, enfin de gens qui n'étaient pas les personnes les plus puissantes de leur époque. Et donc, c'est ça que je voulais vraiment raconter, ça. L'histoire du roman, c'est la confession de Sacha, la fin du roman. C'est pour cette confession de Sacha que j'ai écrit ce roman.
On ne vous dévoilera pas ce que... Enfin, j'imagine si peut-être tout le monde l'a lu déjà, mais bon, c'est sûr, voilà, on sent... voilà, c'est le ciment qui peut lier un petit peu tous ces personnages et qui apparaît qu'à la fin. Et c'est un petit peu le procédé, d'ailleurs, que vous avez utilisé dans La vie rêvée d'un Stogé avec le titre, où finalement, on ne comprend... on voit apparaître Che Guevara qu'aux deux tiers du roman, et encore, c'est juste sur une centaine de pages. Donc ça, c'est une volonté...
150
pages, alors. Mais c'est une volonté donc manifeste de votre part, ça de...
Non, il se trouvait que c'était pas une façon d'écrire. C'est-à-dire, je me suis pas dit, tiens, je vais réutiliser cette façon d'écrire. Il se trouve que les deux reposent sur la révélation d'un secret. Donc il y a une sorte de suspense narratif. Et que je pensais dans les deux cas que c'était plus intéressant que le héros arrive le plus tard possible, finalement. Parce que dans La vie rêvée d'un Stogé, l'histoire du roman, c'est pas simplement Guevara ou c'est pas simplement Joseph Kaplan, le personnage. C'est Joseph Kaplan plus Christine, plus Elena, plus... Guevara. Donc c'est ces quatre personnages qui forment, et comme le roman se déroule sur un siècle, il est évident que c'est un peu plus compliqué à raconter qu'une histoire qui se passe uniquement sur quelques années.
Puis en même temps, vous aimez j'ai l'impression que vous aimez casser ce côté un peu linéaire, c'est-à-dire que c'est chacune de ces histoires qui nourrit peut-être la trame principale. Au bout d'un moment, c'est comme un petit peu la grande histoire, on ne sait plus au bout d'un moment si c'est la petite histoire qui influe sur la grande histoire ou inversement.
Non, c'est à l'extrême limite, j'ai pas du tout l'impression ou l'envie d'écrire des romans historiques. C'est pas du tout mon intention ni mon objectif. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement en quoi l'histoire a pu toucher des vies d'hommes et de femmes, et en quoi ça a pu influencer leur vie. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc confronter les. Il est évident qu'aujourd'hui, où on vit dans un monde complètement, enfin pour nous. Relativement aseptisé, ou sans risque, ou sans menace, ou sans enjeu, on n'a pas du tout la même impression que... Il est évident que nos parents, ou même nos grands-parents, en 38-39, étaient confrontés quand même à l'histoire en train de se faire et de se dénouer. Quoi.
J'aimerais également que vous me parliez un petit peu du fonctionnement de ce club, en quoi il consiste exactement? Comment donc, déjà alors, Michel a découvert ce...
Le club, c'était basé... Donc c'est déjà ces deux premières histoires, puis il y en avait une autre qui était pas plus personnelle, mais que j'avais eu l'occasion de voir. Donc quand j'étais ado, je sais pas, c'était donc, je pense, en 63, autour de 63, quelque chose comme ça, j'ai plus à la date. Un jour, dans ce café d'Enfer Rochereau, j'ai vu Sartre et Kessel jouer aux échecs ensemble, et ils rigolaient. Voilà, donc ils riaient. Alors, je savais pas qui ils étaient. Enfin, j'avais rien lu d'eux, je savais qui ils étaient. C'était des gens très célèbres, hein, l'un comme l'autre. Et ça avait l'air de vraiment s'amuser beaucoup. Et toute ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pouvait les faire rire autant ? Et dans ce café de d'Enfer Rochereau, alors ça, c'est beaucoup plus tard, mais à cette époque-là, vivaient essentiellement des Hongrois et des Allemands de l'Est. Enfin, pas que ça, il y en avait, je sais pas, ils étaient 7-8 en tout. Donc, des gens qui avaient fui Budapest en 56 et qui avaient fui l'Allemagne en 61, et qui s'étaient, donc des francophones qui s'étaient réfugiés à Paris, et qui vivaient très difficilement, et j'en connais, il y en a un qui vit toujours, un Hongrois que je connais, qui s'appelle Imre, qui n'a jamais voulu retourner, enfin, qui est retourné en Hongrie, mais qui vit en France, il est français, donc... Et pendant... j'avais envie de raconter leurs histoires, c'est ça qui m'intéressait, c'était de raconter leurs histoires, et surtout... ce que ce Hongrois m'avait raconté, parce que peu de temps après, là, on se croisait parce que dans ce quartier, et on parlait de Jean-Paul Sartre. Il était enterré juste à côté, et il l'aimait pas beaucoup. Et il disait, mais tu sais, c'est un vrai salaud, mais il nous donnait de l'argent. Et, ah bon ? Et dit oui, c'était Sartre et Kessel nous filaient du pognon. Alors, on parle jamais d'argent, mais pourtant il est au cœur de nos vies en permanence. Et donc à cette époque-là, les réfugiés politiques n'avaient pas de soutien financier. Et Sartre d'un côté et Kessel de l'autre, qui étaient donc des gens qui devaient avoir, qui avaient certainement des moyens, donnaient de l'argent à des émigrés pour les aider, pour les soutenir. Alors Kessel, bon, il était né en Russie, il avait certainement une attirance ou une quelque chose de certaine sympathie. Sartre devait avoir des remords, donc il payait un peu de son côté aussi. Et ce qui m'intéressait, c'était cette culpabilité qu'il avait, parce que d'un côté, il n'aimait pas Sartre, soutien du... Parce que c'est lui qui m'a rappelé cette anecdote et qui m'a donné le texte des lettres françaises où Sartre écrit... en parlant des événements de Budapest en 1956, c'est une révolution de petits propriétaires terriens. À la manière dont il avait commencé par juger les événements de Budapest. Et donc, c'est intéressant d'avoir un personnage qui est bourré de contradictions. C'est-à-dire qu'il doit accepter de l'argent de quelqu'un qu'il n'aime pas. Il est obligé de l'accepter parce qu'il a besoin d'argent. Il dit merci à quelqu'un qui l'aime pas plus que ça. C'est ce genre de personnage que j'aime bien. Et donc, c'était intéressant de raconter à travers eux, ces hommes qui se posaient des questions, et ceux que j'ai connus s'en posaient un certain nombre, puisqu'ils se posaient toujours la question « Pourquoi ça n'a pas marché ?» quoi. À quel moment ça a dérapé, pourquoi à chaque fois une belle idée aboutit en drame, en camp, et que ça n'a jamais marché.
Et même ils ne sont pas d'accord entre eux, parce que ça finit toujours en engueulade.
Tout à fait.
On a même l'impression que c'est un jeu tout ça, parce qu'à la fin ça finit toujours autour d'un verre, et puis plaisante.
Et c'est parce que ça fait partie de la façon de vivre, donc ils boivent parce que, bon, c'est assez spontané, mais en réalité, le titre, Le Club des Incorrigibles Optimistes, fait écho à une réflexion qui est dans le premier cercle de Solzhenitsyn, et également dans la plaisanterie de Milan Kundera, où ils disent l'un comme l'autre, dans les pays de l'Est, dans les anciennes démocraties populaires, donc, pays communistes, c'est plus la religion qui est l'opium du peuple, parce que la religion a été éradiquée, on a fermé les églises, on a tué les prêtres, on ne va plus à la messe, etc. Donc, c'est plus la religion, l'opium du peuple. L'opium du peuple, c'est l'optimisme. Ça veut dire que si vous étiez en République tchèque, en Tchécoslovaquie ou en Russie, vous alliez au marché, vous dites, mais il n'y a rien, on ne peut rien acheter, il n'y a rien à acheter, ou c'est très cher, ou c'est de mauvaise qualité, c'est que vous étiez un ennemi du peuple. Et si vous faisiez une critique, c'est que vous étiez un ennemi du peuple et vous pouviez être arrêté, fusillé, envoyé dans un camp. Et donc, pour éviter d'être considéré comme un ennemi du peuple, vous étiez toujours dans une culture, dans une religion de l'optimisme. Tout allait bien, c'était magnifique, c'était merveilleux, on avait une chance formidable de vivre en Tchécoslovaquie ou en URSS. Et donc là, le titre fait expressément référence à cet optimisme-là. Donc eux sont plus du tout optimistes, puisqu'ils n'ont pas de raison d'être optimistes. Par contre, ils sont incorrigibles. Et ils sont plus incorrigibles qu'optimistes. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est que l'optimisme étant une notion assez bâtarde, finalement. C'est Bernanos qui a dit cette phrase profonde. D'ailleurs, j'ai un moment hésité à la prendre en exergue. Il a dit les optimistes sont des imbéciles heureux et les pessimistes des imbéciles malheureux. Et c'est assez vrai. En réalité, c'est assez bête d'être optimiste ou pessimiste. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est finalement d'être incorrigible, c'est-à-dire de recommencer toujours. Et eux, malgré tout ce qu'ils ont vécu, restent incorrigibles.
C'est là qu'on a l'impression que parfois vous jouez aussi avec cette l'ambiguïté du mot échec, finalement. Parce que je vous échec en même temps.
Oui,
enfin, c'est peut-être pas poussé, mais...
les échecs, c'est intéressant dans le sens où c'était, pour moi, à cette époque-là, le monde était binaire. C'est-à-dire qu'on était ou pour les Russes ou pour les Américains. On n'avait pas... Il n'y a pas trop d'alternatives. Et tous les autres, alors à un moment, je le dis, on était où pour... on est ou pour un club de foot ou pour un autre, pour une marque de voiture ou une autre, etc. Donc il y avait une certaine... Et les échecs, c'était pareil. Donc il y avait c'est les blancs, les noirs. Donc il y avait une similitude. Ensuite, bon, c'est un jeu qui est extrêmement populaire quand même dans tous les pays de l'Est. Et c'était la meilleure façon pour ces immigrés qui étaient... complètement laissés à eux-mêmes, d'accueillir ce gamin, cet ado, et de lui apprendre à jouer, quoi, de le faire. Quand vous jouez avec quelqu'un, c'est que vous le considérez comme votre égal, pratiquement. Et donc, il est admis, il fait partie du club.
Enfin, au début, il y a certains joueurs qui ne veulent pas forcément jouer avec lui.
Bien sûr, c'est normal.
Et justement, pour revenir sur ce personnage de Michel, l'enfant, il y a des pages très intéressantes, notamment par rapport à la lecture. Et c'est amusant que vous parliez également de cette construction, enfin, tout est blanc, tout est noir. Alors lui aussi, il classe les auteurs qu'il lit en deux catégories. Ceux qui le font arriver en retard en cours, parce qu'en fait, il lit en marchant. Et il y a toujours eu la chance de ne pas se prendre en poteau ou... à part, bon, on ne va pas tout dévoiler, mais donc les auteurs qui le font arriver en retard en cours et les autres qui le font arriver à l'heure. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous lisiez un passage qui est assez évocateur.
J'ai fini par classer les écrivains en deux catégories. Ceux qui vous laissaient arriver à temps et ceux qui vous mettaient en retard. Les auteurs russes m'ont valu une ribambelle de colle. Quand il commençait à pleuvoir, je me rangeais sous un porche pour poursuivre tranquille. La période Tolstoï a été un mois noir. La bataille de Borodino a entraîné 3 heures de colle. Quand quelques jours plus tard, j'ai expliqué à l'appariteur, un pion thésard, que mon retard était dû au suicide d'Anna Karénine, il a cru que je me foutais de lui. J'ai aggravé mon cas en avouant que je n'avais pas compris pour quel motif elle se suicidait. J'avais été obligé de revenir en arrière par peur d'en avoir manqué la raison. Il m'a collé pour 2 jeudis, un pour ce énième retard, l'autre parce que c'était une emmerdeuse qui ne méritait pas autant d'attention. Je ne lui en ai pas voulu, ça m'a permis de venir à bout de Madame Bovary.
Donc, Ça, ce sont des goûts que vous partagez avec Michel ou c'est, enfin, vous l'inventez justement. Enfin, il est question de d'auteurs russes, comme on vient de l'entendre, mais également Paul Wells, Kafka, qui revient aussi justement. J'ai l'impression qu'il y a des références dans le dans Ernest Auger ou Rimbaud aussi. Ça, ce sont des auteurs que vous appréciez particulièrement.
Certains, bien sûr, oui, tout à fait. Mm. Pas. C'était plus évident qu'un ado passe par les grands classiques pour les découvrir. Bon, je me sens pas spécialement. Enfin, pas, aujourd'hui, c'est pas les livres dont que j'évoquerai particulièrement.
D'accord. Et justement, aujourd'hui, vous, Jean-Michel Guénassia, quels sont les livres que vous ou les auteurs que vous, vous appréciez particulièrement?
C'est plus Philip Ross, certainement, oui. John Irving.
Justement, voilà, ça m'étonnait de ne pas avoir trop d'anglo-saxons, en fait, dans vos, dans vos références.
Hormis Kerouac, qui est le seul Kerouac, que ouais. j'évoque. Mais bon, ce n'était pas non plus le cadre d'en parler. C'est pas du tout un roman autobiographique, donc c'était pas... J'étais pas là pour étaler mes goûts personnels et raconter les livres que parler de mes goûts littéraires. De la même façon, si Michel Marini est un lecteur, c'est pas du tout, c'est uniquement parce que très longtemps je me suis posé la question comment va-t-il rencontrer Camille. Et je voulais qu'il rencontre Camille d'une façon qui soit originale. Et quand j'ai eu cette idée-là, ça m'a donné un personnage lecteur. Et donc, je suis allé à fond dans cette direction. De la même façon, dans La vie rêvée d'Ernest Auger, l'amour que Joseph Kaplan porte à Carlos Gardel m'a été apporté par l'amour que Guevara portait à Carlos Gardel. Mmh. Et donc, ça, on le saura à la fin du roman, lorsqu'ils vont se rencontrer, ils auront cette proximité entre eux. Et quand deux personnes partagent un goût pour les mêmes choses, ils auront tout de suite un sujet de discussion. Et forcément, de la même façon que la lecture caractérise Michel, de la même façon, dans La rivière rêvée, la musique, Carlos Gardel, Volver, caractérise Joseph Kaplan. Et après, une fois que j'ai cette coloration, j'ai le personnage.
Justement, pour revenir sur le Ernest Auger, donc là aussi, vous êtes beaucoup documenté. Et je voulais savoir si, effectivement, il était venu en Europe, comme vous l'écrivez. Est-ce que...
Guevara, vous voulez
Guevara,
dire
oui.
Oui, tout à fait. Au départ, l'idée, la première idée, c'était je voulais écrire l'histoire d'un... Après le club, je voulais écrire l'histoire d'un homme qui aurait pu être membre du club s'il s'était sauvé. Mais il ne se serait pas sauvé, il serait resté de l'autre côté du mur. Et j'avais envie de raconter l'histoire d'un homme sur toute sa vie et d'en faire un centenaire. Et c'était une idée, je ne sais pas pourquoi, le pourquoi ne m'intéresse pas trop. Donc j'étais parti sur cette idée de raconter l'histoire d'un centenaire. Il serait né en 1910, c'est-à-dire la même génération que Igor, Sacha, dans le club. Le roman s'arrêterait en 2010, parce que c'est l'époque où je l'écrivais, donc à Prague, où il fêterait son centième anniversaire. Et donc j'étais parti sur cette idée-là, et dans la première, quand j'y pensais, c'était un Russe. Bon. Quand je suis tombé sur cette anecdote rapportant que Ernesto Che Guevara avait passé 4 mois à Prague, de mars à juillet 1966. Et ça, c'est un an juste avant sa mort, le 9 octobre 1967, en Bolivie. Et personne ne sait pourquoi. Alors, il est allé à Prague, mystère, surtout qu'il était gravement malade. Et pour ce qu'il avait, c'était le climat de Prague lui était totalement déconseillé. Il sortait d'une guérilla en Afrique pendant toute l'année 65, qui avait été une catastrophe militaire, où le corps expéditionnaire cubain qui dirigeait avait été réduit en miettes. Il avait été miraculeusement sauvé. Il se retrouve en janvier 66 à l'ambassade de Dar es Salaam en Tanzanie. Il a une double dysenterie, c'est-à-dire qu'il se vide en permanence. Il a une récidive de palu, chose qui est techniquement impossible parce que vous ne pouvez pas, une fois que vous avez le paludisme, vous avez des crises de palu, mais vous êtes immunisé. Sauf si vous êtes piqué par un moustique spécifique qui s'appelle le falciparum. Et le falciparum, on ne le trouve que dans la forêt équatoriale africaine. C'est le seul endroit du monde où on le trouve. Et lui-même, étant au Congo, a été piqué. Et donc, il avait deux palus en même temps. Et il est asthmatique, grave. Qui soigne avec des gros cigares cubains. Il pèse 49 kilos. Et pour ça, il faut de la chaleur, il faut du soleil, au moins un climat sec. Et il se retape, il pèse 49 kilos, il mesure 1m72. On sait qu'il est extrêmement dépressif à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à Prague, où il n'y a aucun médecin qui connaît le palu. Et il va y rester 4 mois, ce qui est très très long. Surtout qu'à cette époque-là, en plus, le Tchécoslovaquie en 66 est dirigé par un stalinien pur et dur qui s'appelle Anton Novotny, qui est vraiment un stalinien. Le pays est tenu par le KGB complètement. Alors même s'il commence à y avoir des petits mouvements de libéralisation, mais même Dubček n'a pas encore été élu en 66. Il est juste le secrétaire du parti à Brno. Il n'est pas encore secrétaire général du parti. La Tchécoslovaquie est complètement tenue par les soviétiques. C'est vraiment le pouvoir. Et lui s'entend extrêmement mal avec les Russes depuis l'épisode des fusées russes à Cuba en 62, où il a accusé alors qu'il avait tout fait avec Castro pour faire venir les fusées à Cuba, il accuse Khrouchtchev et tous les dirigeants communistes d'avoir cédé au chantage de Kennedy et d'avoir fait machine arrière, lui étant persuadé que Kennedy n'aurait jamais déclenché la guerre nucléaire s'il n'avait pas été agressé. Et il s'en était très violemment pris à Alexis Kosygine, et il les détestait, enfin il les méprisait, il accusait les dirigeants communistes tous d'avoir trahi la cause de la classe ouvrière, d'être des planqués, de chercher qu'à protéger leurs intérêts. Il avait d'ailleurs tout à fait raison, et il s'entendait extrêmement mal donc avec les soviétiques. Il a passé 3 ans, les 3 années suivantes, 62, a sillonné le monde pour initier un mouvement qui s'appelait la troisième force, troisième voie, avec les pays non alignés, donc avec Nehru en Inde, Soekarno en Indonésie, Nasser en Égypte, Ben Bella en Algérie. Enfin, il réunissait tous les pays qui n'étaient ni affiliés inféodés à l'Union soviétique, ni ceux qui étaient inféodés aux Américains. Et qu'est-ce qu'il fait alors qu'il déteste les soviétiques? Il va à Prague. Et son principal biographe, qui est Pierre Calfon, qui a écrit une biographie extraordinaire sur Guevara, n'a aucune explication à ça. Quand les archives tchèques ont été ouvertes, on n'a pas trouvé de dossier. Il y en a peut-être un à Moscou, mais ils ne sont pas accessibles. Il y en a certainement à Cuba, ils ne sont pas accessibles non plus. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année d'après, Guevara va mourir en Bolivie, le 9 octobre 67, dans une autre guérilla tout aussi stupide et mal montée, mal faite, mal organisée. Et un de ceux qui l'ont très bien connu, qui est Régis Debray, qui avait 19 ans à l'époque, qui était à l'époque marxiste-léniniste. Donc c'est intéressant, c'est de voir le parcours, parce qu'aujourd'hui c'est un écrivain mystique, quasiment catholique, a écrit donc que l'aventure bolivienne est une forme de suicide. C'est tellement stupide, tellement invraisemblable, tellement mal fait. c'est une forme de suicide. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi on se suicide de cette façon aussi stupide quand on a 39 ans ? Guevara, en plus, a 6 enfants de 3 femmes différentes. C'est pas un très très bon père de famille, mais quand même il a une relation quand même avec ses enfants. Pourquoi on va se suicider en montant une opération aussi stupide? Donc je me suis amusé à proposer une explication vaseuse et romanesque à cette histoire-là. Surtout qu'il y a un mystère, il y a un point d'interrogation. Personne ne peut aujourd'hui expliquer ce que cet homme aussi célèbre a. Pourquoi il y a un trou de 4 mois dans son emploi du temps. Et ce qui m'intéressait, c'était au contraire de confronter puisque c'était ce qui m'intéressait dans le club et dans celui-là, c'était de parler des utopies, de montrer que la confrontation entre Joseph Kaplan, qui est un héros du quotidien, un héros anonyme, quelqu'un qui est un médecin, qui essaie juste de faire son métier de médecin, de sauver des êtres vivants, et de faire que qu'ils ne souffrent pas, et de le confronter à Guevara, qui est un héros, là que je présente plutôt comme un anti-héros, qui va se poser des questions sur son engagement. Pourquoi est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il constate? C'est que ce qu'il a fait a échoué. Il constate, puisqu'il est quand même allé dans un pays, Tchécoslovaquie est quand même pas du tout un modèle de liberté, de démocratie. Et en réalité, finalement, il se bat les armes à la main pour imposer une dictature à la Tchèque. C'est complètement absurde. Et ça l'amène quand même à se poser des questions. Et ce qui m'intéressait, c'était de confronter cet anti-héros au héros du quotidien et de faire en sorte que ces deux-là se posent des questions sur leurs histoires respectives. Et donc, oui, c'est ça qui m'intéressait, c'était là. Confronter fictivement, même si cette rencontre est complètement fictive, n'a jamais eu lieu, un héros du quotidien et un anti-héros comme Guevara.
Justement, de tous ces personnages que vous avez créé dans cette sorte de petite comédie humaine, finalement. Est-ce que, on a bien compris que ce n'était pas autobiographique, mais est-ce qu'il y en a un dont vous sentez plus proche?
Proche.
Vous voudriez ressembler davantage
Non, pas. Non, c'est. J'écris. Comment? J'écris en. Je m'identifie à aucun des personnages spécialement. Je ne veux pas dire comme Flaubert, je suis Madame Bovary, mais non, j'ai pas de, d'identification à un personnage. Pas plus Michel qu'un autre. Je me projette dans tous complètement.
Vous créez avant tout.
Ah oui, j'ai pas un personnage particulier. Non.
De l'empathie ou.
Non, je sais pas je peux pas dire que je me sente plus proche d'un personnage. Forcément, les personnages qu'on va utiliser plus longtemps, Joseph Kaplan, il est de la première à la dernière plage pendant, 500 pages. Il est là, forcément, je suis plus longtemps avec lui, comme avec Michel Marigny dans le club. Donc, du fait que ce sont les fils rouges, c'est eux qui portent l'histoire. Même s'ils ne sont pas véritablement les héros des deux romans, ce sont les fils rouges. C'est-à-dire ce sont eux qui permettent au roman de s'accomplir, d'être raconté. J'ai un peu plus de. Probablement de. Je suis resté plus longtemps avec eux, oui. Mais je pas. Je suis ni l'un ni l'autre. Je m'identifie ni à l'un ni à l'autre.
Et alors c'est vrai que quand on lit le Club des Incorrigibles Optimistes, aussi à Ernst Auger, on a l'impression de quelque chose de très cinématographique. Est-ce que vous avez reçu des propositions justement
pour adapter? Oui, mais pour l'instant, j'ai pas eu envie. Voilà, donc ça m'a, aucune des propositions que j'ai eues m'a vraiment séduite. Je veux pas que ça devienne un téléfilm, donc je refuse.
Et vous ne rejetez pas l'idée ?
Non, non, pas du tout. Pour l'instant, ça s'est pas fait. Il n'y a pas eu la rencontre qui m'a fait dire oui, allez-y, faites-le. Moi, je veux plus m'en occuper, donc, mais j'ai pas intention de le faire.
Bon, en tout cas, on remercie Jean-Michel Guinassia pour être venu, enfin pour sa venue. Puis on attend avec impatience votre, on va dire votre vrai troisième roman. Alors.
Oui.
Merci.